Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, nous parlerons comme d'habitude des jeux indépendants, avec Kickstarter et une initiative de Tim Schafer. Ça s'appelle comment, Manren?
L'Amnesia Fortnite.
Donc, on vous en dira plus, c'est une initiative assez spéciale qui est vraiment très intéressante. On reviendra sur ces développeurs tchèques qui sont détenus prisonniers en Grèce. On parlera également de Mirror's Edge 2. Et oui, il y a eu des rumeurs cette semaine. Enfin, disons que un des développeurs a laissé entrevoir que c'était possible qu'ils soient en développement. On évoquera ensuite Capcom, qui va faire Dragon's Dogma sur PC. Ah bah non, en fait. Non, c'est une erreur. On parlera de Rockstar, qui a évoqué les portages PC et Wii U de GTA V. On évoquera les 135 heures d'affilée passées sur un jeu vidéo. Quel est ce jeu vidéo, n'est-ce pas?
Un grand point d'interrogation.
Nintendo, qui confirme que la Wii U est bien morte.
Que la Wii est bien morte, pas la Wii U.
Voilà, oui.
Oh, le lapsus révélateur.
Oh, dur.
Bon, on va falloir enchaîner après ça. Ensuite, nous parlerons de la faille de sécurité trouvée sur la Wii U. Nous parlerons d'Activision qui met des maps et qui les enlève comme ça sur Black Ops 2. Et enfin, nous finirons avec Mass Effect 4. Et puis, bien sûr, les dates, comme d'habitude. Et notre test, à savoir
Assassin's Creed 3, Libération sur PS Vita.
D'accord. Bien. Bon, on commence donc, comme d'habitude, par les indés, avec Kickstarter. Maureen, peux-tu nous parler de Legend of Dungeon?
Oui, alors Legend of Dungeon, c'est un petit Kickstarter qui s'est lancé il y a 10 jours, et qui demandait très peu, finalement, $5,000 pour créer, en fait, un beat'em all coopératif à 4 joueurs. Tout en pixel art, un petit peu à la sauce Sword and Sorcery. Tous les donjons sont créés entièrement en procédural, ce qui fait que tout est aléatoire. La place des objets, les monstres qui apparaissent, tout est aléatoire. Donc quand vous perdez, que vous recommencez un même donjon, ça va être totalement différent.
Donc a priori c'est quand même assez classique au niveau des roguelikes, quoi.
Ah oui, c'est assez classique, mais c'est plutôt joli. Moi j'aime bien le côté coopératif jusqu'à 4 joueurs.
Ça par contre c'est original, c'est pas habituel quoi.
Il y a un côté aussi permadeath, ce qui fait que on est 4 à jouer à ce jeu. Il y en a un qui meurt, il va devenir un espèce de petit fantôme et bon, il va regagner de la vie puisque bon, vu que c'est le seul à être mort, ça serait un peu naze qu'il puisse pas revenir. Mais quand tout le monde meurt, c'est game over quoi. Vous recommencez tout depuis le début. Voilà, faites attention à pas mourir. Et donc a priori ils ont ce qu'on appelle un stretch goal. Donc là ils sont à plus de $10,000.
Ils ont atteint leur objectif quoi.
Ah oui, l'objectif est atteint, mais plus il y aura d'argent, bien évidemment, plus ils incorporeront de nouveaux contenus, notamment une extension dans la forêt, et possiblement s'ils arrivent à $100,000, ce qui est beaucoup quand même, ils vont rajouter tout un monde en dehors des donjons et une histoire RPG tout autour. Donc je vous invite à aller voir le Kickstarter de Legend of Dungeon. C'est joli. Et ça a l'air vraiment très sympa à jouer.
Très bien. Bah écoute, moi ça m'a l'air pas mal. J'irai jeter un coup d'œil. Bon, ensuite, on va parler des larmes de Peter Molineux sur Project Godus.
Les larmes de crocodile.
Voilà. Bon, déjà, évoquons quand même ce que c'est Project Godus.
Alors, Project Godus, c'est le nouveau projet de Peter Molineux et de son studio indépendant qui s'appelle 22 Cans, qu'il a lancé en mars 2012 après avoir quitté Microsoft. Il a lancé très récemment son projet tablette smartphone qui s'appelle Curiosity, qui a plutôt pas mal marché, même trop marché d'ailleurs, parce que le serveur n'a pas été assez solide pour tenir la cadence face aux joueurs qui détruisaient le cube de Curiosity aussi rapidement.
Alors je rappelle, Curiosity en fait c'est un cube unique. Et tout le monde interagit avec ce cube.
Oui.
C'est vraiment un truc persistant. Et en fait, l'idée, c'est que vraiment, vous allez devoir découvrir les faces du cube. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde s'entraide pour à la fin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du cube.
C'est ça. Il y a 2000 couches au cube.
Et le truc, c'est que au début, ils s'attendaient genre une petite montée en charge, tu vois.
Ouais.
Sauf que premier jour, ils ont eu 200 000 téléchargements.
C'est ça.
Et au bout d'un moment, là, l'interview qu'il a fait donc avec le site Rock Paper Shotgun, il a dit que là, ils auraient été à 2 millions. Donc ils avaient prévu 15 serveurs alors qu'il en aurait fallu 15, donc forcément ils ont été un peu submergés.
Voilà.
Et donc ce qui s'est passé du coup, ça a eu forcément une incidence sur son nouveau projet Kickstarter, parce que Kickstarter s'est basé sur la confiance. Et donc cet incident a disons fait remonter une certaine méfiance qu'ont les gens vis-à-vis de Peter Molyneux, parce que bon, vous le savez très bien, le père Molyneux, voilà quoi, il aime promettre beaucoup de choses, quoi.
Mytho, mytho.
Il partage ses rêves, on va dire.
Pour ça, c'est un mythomane. Je pense qu'il y croit vraiment. Le problème, c'est qu'à un moment, il est confronté à la réalité, tu vois.
Excusez-moi, mais pour moi, la définition d'un mythomane, c'est de dire des choses qui, au final, ne sont pas vraies. Fable, on m'a dit des choses qui, au final, n'étaient pas vraies.
Au départ, je pense qu'il pense que c'est réalisable.
Ah oui, oui.
Et après, il se rend compte, face à la technologie, que c'est pas possible. Donc son projet Godus, en gros, il nous a fait sa description. Alors, c'est un mélange de Populous, de Dungeon Keeper, et de Black and White. Donc on imagine bien que, en gros, Black and White, il va reprendre l'intelligence artificielle. Dungeon Keeper, il va prendre tout le côté « je creuse, je gère un donjon ». Et Populous, tout ce qui est gestion, enfin God Game, voilà quoi. Le truc, c'est que ça, c'est un jeu, ça existe, ça s'appelle Dwarf Fortress. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont lui faire remarquer que oui, ça existe déjà, quoi, ce qu'il promet, en gros. Et surtout que le problème, c'est que Dwarf Fortress, bon, certes, l'interface est à chier, on en pense qu'on veut, et la skill, c'est assez horrible, mais c'est un jeu qui est vachement avancé pour tout ce qui est intelligence artificielle, etc. C'est vraiment un jeu qui est très, très, très avancé. Donc, il va souffrir de la comparaison avec un pauvre jeu indé en ASCII, quoi. Il y a ça aussi. Et en plus, par-dessus ça, il y a le fait que c'est un projet britannique, je rappelle, et que projet britannique oblige, c'est en livre. Et comme on le disait il y a deux semaines, la livre, ça douille quand tu dois investir en dollars. Déjà en euros, c'est pas évident. Alors là, en dollars, ça fait mal, quoi.
Oui.
Et il y a ça, mais en plus, il y a le fait que le premier palier où tu as le jeu, en fait, est à 15 livres. Ils ont donc limité ce palier-là, donc ça veut dire que quand il y a 5000 clés à avoir, en gros, clés du jeu, et une fois que ça sera terminé, ben voilà, quoi. Il y aura plus de clés à ce niveau-là. Et le palier juste au-dessus, c'est à 30 livres.
Ouais.
Et 30 livres en dollars, ça fait beaucoup, quoi.
Je rappelle aussi qu'ils demandent 450 000 livres. Pour le moment, à l'heure où on enregistre ce podcast, ils sont à 130 000, un petit peu plus de 130 000, et ça fait 5 jours que le projet est lancé. Donc bon, rien n'est fait, mais c'est vrai que ça peut être compliqué.
Il n'y a pas un enthousiasme débordant, quoi. Moi, je me rappelle des Project Eternity, ou même plus récemment Star Citizen, qui a battu tous les records avec plus de 6 millions de dollars de dons. Ils avaient fait plus d'un million de dollars en 24 heures, quoi. Alors que là, franchement, il rame, quoi, le père Molyneux. C'est pas très, très rassurant, quoi.
Mais quand même, le personnage de Peter Molyneux, il est très fort. Enfin, moi, je décernerais sans aucun doute l'Oscar du meilleur acteur cette année. Parce que pendant l'interview de Rock Paper Shotgun, le petit bonhomme s'effondre en larmes, genre, oui, mais c'est pas de ma faute. Franchement, bravo, chapeau l'artiste.
Non mais moi je pense qu'il est sincère. Franchement, je pense pas que ce soit un gars malhonnête, quoi. Je pense que c'est un gars qui est entier. C'est bien ça son problème, quoi. C'est que il est trop enthousiaste, il est trop dans son truc, en fait.
Ah mais c'est un mec qui a pas de filtre, en fait, sur sa bouche. Il dit exactement ce qu'il pense, quoi.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'est bon. Après avoir pleuré devant le reporter de Rock Paper Shotgun, il dit je sais que je dis toutes ces choses, j'aimerais ne pas pouvoir les dire, mais c'est simplement que j'y crois tellement, quoi. Donc du coup Voilà, le seul souci, c'est qu'il y croit, il a la naïveté d'y croire, parce qu'il est pas technicien, hein, Molineux. Lui, il a les concepts, il a les grandes idées derrière les choses, et après, il dit, faites au mieux, quoi. Mais le seul souci, c'est que lui, il promet au public ses grandes idées, il promet pas la technique.
Non, mais surtout que, curiosité, le problème qu'il a eu, fondamentalement, je veux dire, il a tenu sa promesse, hein, au niveau du concept, le concept, il est là.
Bien sûr.
Le truc, c'est que, il y a eu un souci technique, et ça, je suis désolé, ça peut arriver à tout le monde.
Évidemment.
Citez-moi un seul MMO, par exemple, un seul univers persistant qui n'a pas eu de soucis techniques à la release à cause des serveurs. Moi, j'en connais pas personnellement.
Oui,
j'en connais pas un seul. Ouais. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien casser du sucre sur le dos de Moulineux, mais quand même, là, je veux dire, dans le cas présent, il y a eu un souci technique. Ajoutez ça au fait que quand ils ont, en fait, il y a eu un autre souci, c'est que quand ils ont ajouté les serveurs, apparemment, il y a eu un bug. Parce que en fait, de ce que j'ai compris, tu récupères des dollars dedans quand tu dévoiles une partie du cube. Mmh. Et le problème, c'est que apparemment, il y a eu un bug qui s'est introduit et les gens ont commencé à perdre des sous en fait.
Mmh.
Mais pas des sous réels, hein, c'est juste
ouais, du jeu. Heureusement.
Ils ont corrigé le bug après en fait. Mais bon, ça peut arriver, ça. Faut à un moment, si t'as 2 millions de mecs dessus et que c'est un monde unique.
Ah oui, bien sûr.
Voilà quoi. Donc à un moment donné, je veux dire. Apparemment, là, il n'avait pas fait de promesses mirobolantes. Ce qu'il avait promis est là.
Mmh.
Et j'ajouterais que ce qu'il promet, là, sur Godus, bon, c'est pas non plus mirobolant, quoi.
Oui, c'est faisable. Hein.
Il promet de faire un mix de ses meilleurs jeux, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans non plus, quoi.
Donc, si vous voulez qu'il arrête de dire un peu n'importe quoi, cotisons pour lui acheter un rouleau de scotch.
Voilà.
Non, en tout cas, c'est un projet qu'il faut suivre parce que c'est intéressant.
Juste pour l'anecdote, je note que quand il parlait de ses collaborateurs actuels, il a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu des collaborateurs aussi passionnés. Donc ça en dit long sur Lionhead, hein, mais voilà.
Ouais. Il s'est pas rendu compte certainement.
Bon, allez, on passe à la suite et on termine sur les indés avec Amnesia Fortnite, la nouvelle initiative de Tim Schafer.
Ouais, une nouvelle initiative conjointe entre Tim Schafer et le site humblebundle.com. Mm. Donc l'Amnesia Fortnite, en fait, c'est donc 2 semaines dans lesquelles les développeurs de Double Fine vont vous présenter énormément de prototypes et de concepts de jeux vidéo.
Mm.
Et pour contribuer et voter, il faut que vous participiez financièrement à partir de, je sais pas moi, 1 centime de dollar par exemple. Et si vous voulez avoir accès au prototype plus tard, il faut que vous dépassiez le prix moyen dépensé par chaque utilisateur.
C'est le principe du Humble Bundle, quoi.
Voilà, le principe du Humble Bundle appliqué au prototype, et il y a, il me semble, oui, il y a 23 prototypes à l'heure actuelle, énormément de votes, et il faut savoir que les 4 top prototypes vont vous être envoyés en fait une fois la double semaine terminée. Et vous pourrez ensuite vous rendre compte de comment c'est justement. Et il est possible, alors on sait pas, hein, c'est des prototypes, mais il est possible qu'il y en ait un qui soit tourné en jeu un jour.
Et tu en as une préférence peut-être parmi tous les prototypes qui ont été présentés?
Je les ai pas tous regardés pour être honnête. J'ai pas encore voté. Après, moi j'aime bien tout ce qui est science-fiction, donc je te dirais Space Base, où il faut construire une base spatiale où il y a des aliens qui vivent et travaillent. C'est très, pour le moment, il y a rien de spécial hein, dedans, mais j'aime juste le concept, quoi. Parce que bon, moi, tu sais que la science-fiction et moi,
voilà, c'est un grand amour.
Exactement.
Personnellement, j'ai une petite préférence pour Black Lake. En même temps, le jeu, on sait pas grand-chose non plus ce que ça va être, mais il y a une direction artistique sur le truc qui est vraiment super. Et sinon, bon, il va pas marcher, mais malheureusement. Mais Échelon, moi, il m'attire pas mal. Échelon, en gros, l'idée, c'est que évidemment, ça porte le même nom que le système d'écoute, n'est-ce pas? Mmh. Et en gros, vous allez jouer quelqu'un sur ce réseau échelon qui écoute les conversations et tout, pirate, ça a l'air génial. Enfin, mais ouais. Malheureusement, il a pas trop de succès. Donc, ouais.
Pour vous donner une idée de ceux qui ont du succès, ils sont à plus de 5000 votes, voire plus de 7000 pour certains. Mmh. Donc voilà, ouais. C'est il y a quand même beaucoup de gens qui participent et c'est ça fait plaisir à voir pour ce genre d'initiative.
Bon, c'est terminé pour les indés cette semaine. On va passer à l'actualité et bon, tu me diras c'est l'actualité les indés quand même, oui. Mais on va passer à l'actualité générale et on va parler de nos amis développeurs tchèques qui mm-hmm. sont toujours emprisonnés en Grèce, n'est-ce pas? Mm-hmm. Apparemment, ça commence à bouger du côté du gouvernement tchèque.
Bah, il était temps hein, parce que bon, c'est vrai que si la communauté jeux vidéo s'ébranle un petit peu pour cette cause-là, il y a rien de mieux que la vraie diplomatie pour faire bouger les choses. Et c'est le président tchèque. Alors je vais me risquer à prononcer son nom, Václav Klaus, qui en appelle au gouvernement grec et à comment dire et à leur sens commun, à leur bon sens pour faire en sorte que voilà ces deux développeurs qui je le rappelle sont accusés d'espionnage et sont emprisonnés dans des conditions catastrophiques en Grèce puissent sortir, voilà. Donc il dit je n'ai aucun doute que la démocratie les autorités démocratiques grecques vont considérer ce cas malencontreux de façon impartiale et indépendante. Voilà.
En gros, il a passé 2 ans, toi. D'accord.
Il a dit ça après avoir appris, je crois que comment dire, l'impossibilité de leur libération sous caution, il me semble.
Mmh. C'est ça, oui.
C'est pour ça qu'il intervient, je pense. Ouais. Mmh.
Et aussi ce que j'ai bien aimé moi de la part du président tchèque, qui a dit donc à Karalos Papoulias, pour le président grec, mmh. qui lui a dit que ça serait très fâcheux que cette histoire assombrisse les relations diplomatiques entre la République tchèque et la Grèce. Carrément, donc. Ça veut dire que c'est vraiment une affaire d'État maintenant.
Bah oui, j'espère bien que c'en est une parce que voilà, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, on est en Europe, c'est pas comme si on parlait de la Colombie, quoi.
Mais je t'assure, cette histoire, t'as l'impression que t'es c'est les FARC qui ont enlevé des temps courts, voilà quoi.
Et d'ailleurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a toujours un site de soutien qui leur a adressé pour leur dire pour leur famille, etc. Vous trouverez ça rapidement sur Internet, donc voilà.
Mais apparemment, ils seront emprisonnés au moins jusqu'à après Noël, en fait. Voilà. Il n'y a pas moyen qu'ils sortent avant, d'après ce que j'ai pu lire.
Ouais, mais faut qu'ils sortent, quoi. Parce que ça fait déjà plus de 2 mois, hein.
Ouais.
Plus de 2 mois et demi qu'ils sont à l'intérieur.
Ok. Donc, maintenant, nous allons parler de Mirror's Edge 2. Enfin, de la rumeur d'un possible Mirror's Edge 2. Alors, comment cette rumeur a éclos?
En fait, sur Twitter, puisque maintenant c'est un de mes médiums qu'il faut absolument suivre pour avoir les dernières petites choses croustillantes, vraies ou fausses d'ailleurs, c'est un développeur suédois du nom de Ben Cousins, qui a priori n'a pas un nom suédois, mais peu importe, qui travaille à Stockholm en fait et qui balance sur Twitter. Il est de la connaissance générale dans la scène des développeurs de Stockholm que Mirror's Edge 2 est en production chez DICE. Et ce commentaire vient 2 jours après le moment où Electronic Arts disait que DICE ne serait pas une usine à Battlefield. Sous-entendu, DICE ne va pas faire que développer du Battlefield sur les 10 années qui viennent. Et donc du coup, on se dit, il y a peut-être une ouverture, peut-être pas, mais en tout cas, aucune information officielle n'a filtré, bien évidemment, de chez Electronic Arts. Mais bon, c'est peut-être une petite lueur d'espoir.
Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Mirror's Edge 2
C'est ça.
C'est un petit peu l'arlésienne aussi, Mirror's Edge 2, parce que c'est pas la première rumeur sur son développement. Hein. Je sais que ça vient... je me souviens de l'E3 de l'année dernière, il me semble, où t'avais le patron d'EA Franck Gibeault, qui parlait d'associer Mirror's Edge au Frostbite 2, donc à son moteur de Battlefield 3, par exemple. Donc voilà, ça fait suite à plein de rumeurs, sans confirmation, ça reste une arlésienne, hein, pour moi. Après.
Rappelons que Mirror's Edge c'est 2008, donc ça fait ça fait plus de 4 ans que on a quasiment aucune nouvelle de Mirror's Edge 2, même si on avait l'espoir après le fait que Electronic Arts ait repris Dead Space pour en faire des suites, que Mirror's Edge soit un petit peu la suite, puisque en fait, si vous voulez, en 2008, Electronic Arts avait deux jeux un peu spéciaux, c'était Dead Space et Mirror's Edge, qui tous les deux c'était pas très bien vendu. Bon, ils avaient quand même réussi à dépasser le million de ventes, hein, mais assez difficilement. Et finalement, Electronic Arts avait pris Dead Space 2 pour, enfin, pris Dead Space pour faire une suite qui marche pas trop mal. Hein. Il y a un Dead Space 3 qui sort l'année prochaine, mais on ne sait pas si c'est exactement le même esprit que Dead Space original. Ça, je suis d'accord.
Ouais, parce que c'est ça le problème. Si voilà. C'est pour faire avec Mirror's Edge ce qu'ils ont fait avec Dead Space. Personnellement, ça me fait pas rêver, hein, mais après, chacun
voilà.
Bah, ils attendront Mirror's Edge 3.
Parce que pour ceux qui connaîtraient pas, Mirror's Edge, c'est un jeu de plateforme assez demandeur, quand même, en termes de, en termes de skill et de, die and retry. Et, c'est pas Assassin's Creed, quoi.
Et c'est, surtout, c'est un jeu non violent, quoi. Enfin.
Aussi.
C'est un jeu où tu fuis. Enfin, tu peux prendre des armes vite fait, mais c'est clairement pas conçu pour ça, quoi.
Le but même du jeu, mais moi ce que je voudrais dire sur Mirror's Edge, c'est que il y a beaucoup de gens que j'ai vu comme quoi, à l'époque où Mirror's Edge 2 n'était pas sûr du tout d'avoir un avenir, il y a des gens qui criaient sur les forums, ouais, putain, c'est une super licence et tout ça. Mais si c'est normal, si vous achetez pas le jeu, ça va pas forcer les développeurs à vous en créer des autres. Hein, si vous achetez que des Call of Duty, tous
ouais,
les
mais
ans,
ATH, j'ai envie de dire. Peut-être que ces gens-là sur les forums, ils ont acheté, mais c'est pas parce que ces gens-là sur les forums achètent qu'ils représentent la majorité. C'est toujours ça ce truc, parce qu'on croit que les gens sur les sites de jeux vidéo représentent quelque chose. Moi, je pense qu'ils représentent rien du tout. C'est ça le truc, ça, c'est des passionnés qui viennent poster sur un forum. Moi, je pense que pour poster sur un forum, faut quand même avoir une consommation de jeux vidéo assez régulière, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et être un minimum passionné par ça. Et moi, je pense que ces personnes-là en tout cas, il représente pas le gros de la clientèle qui va se faire Call of Duty, par exemple, tu vois.
C'est évident.
Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que voilà, Mirror's Edge, il a eu un peu c'est devenu un peu un jeu hype, tu vois, et que les gens, je suis sûr que la plupart il y a beaucoup de gens, en tout cas, sur Internet, disaient ouais, c'est une honte qu'il n'a pas ce jeu, alors qu'ils ont même pas touché à la bête. Et ça, ça s'avérait par la suite que j'ai déjà eu des retours comme ça, que sur quoi des gens ils n'avaient jamais joué à ça, mais au final ils criaient ouais putain, pourquoi le 2 il sort pas, comme ça me forcerait à faire le 1 et tout. Donc voilà, c'est un peu un paradoxe, quoi.
Ça, c'est assez habituel, hein, dans l'industrie du jeu vidéo, des gens qui se disent ah ouais, mais ça a l'air super bien, j'ai très très envie d'avoir une suite. Mais résultat, c'est comme ça que tu te rends compte que finalement les gens ils connaissent tous ICO, mais ils ont voilà. Pas tous joué, quoi. Enfin, le premier, hein, par exemple, je connais très bien ICO, je l'ai acheté en collection HD et je l'ai pas acheté sur PS2, quoi.
Ah, tu l'as eu plus tard.
Je l'ai eu beaucoup plus tard.
Comme ça, t'as un titre, on va dire culte, t'as eu envie de le faire parce que t'as eu des bons ICO. Jeu de mots et que t'as eu envie de le faire par la suite. C'est comme moi, Mirror's Edge, le premier, je l'ai pas fait parce que j'avais fait la
honte
démo.
Sur toi, ATH, honte sur toi.
Non, mais franchement, j'avais fait la démo. Le jeu il me plaisait bien, le concept et tout. Mais après, quand j'ai vu la durée de vie du jeu, je me suis dit ouais, quand même, ça m'a refroidi d'investir dedans.
Non, mais c'est comme Final Fantasy VI. Hein. Tout le monde y a joué en Jap sur Super Nintendo à l'époque, n'est-ce pas? Personne n'y a joué sur émulateur avec le patch de Terminus traduction. Personne. c'est toujours le même problème. Non, mais voilà. Enfin. Après, bon, c'est ça le problème avec les jeux cultes, c'est que
c'est ça.
Souvent y a beaucoup de personnes n'y ont pas joué, quoi, en fait, à l'époque. Mais bon, voilà. Genre, moi, je suis fan de Panzer Dragoon Saga, je suis persuadé que y a pas beaucoup de monde qui l'a joué, quoi.
Je connaissais même
pas. En tout cas, j'espère qu'on arrivera peut-être à un truc avec Mirror's Edge 2, et j'espère que ça sera pas trop éloigné du matériau original.
Voilà.
Il y aura juste Shepard dedans.
Ok.
Bon, ensuite, on va parler de Capcom, qui donc avait annoncé une version PC de Dragon's Dogma sur Twitter, il me semble. Et puis en fait, non. Non, désolé, non, ça va pas être possible.
Et oui, là encore, c'est Twitter.
Ouais.
C'est Capcom, le Capcom Royaume-Uni. Le compte officiel hein, Capcom Royaume-Uni qui répond à quelqu'un qui demandait est-ce que Dragon's Dogma PC va arriver un jour, et on lui répond très laconiquement, il arrive. 2 heures après, communiqué de Capcom qui dit non pas du tout.
C'était une blague en fait.
C'est juste, enfin, alors moi personnellement j'en ai rien à faire hein, Dragon's Dogma sur PC.
Pareil.
Mais en termes de communication, waouh quoi, c'est bien joué Capcom. Franchement,
on a vu quelqu'un fait. Qui a dû se faire taper sur les doigts là, ça a dû faire mal.
Ouais, c'est clair.
C'était un développeur qui a laissé son gamin dessus, il a laissé son Twitter allumé.
Et qui parlait pas du tout de la même chose hein, finalement. Bon, bref, peu importe.
Bon.
Donc voilà, Dragon's Dogma PC, un jour peut-être, non, sans doute pas.
On fera une pétition, ou pas.
ou pas. Là, par contre, il y a un autre portage qu'on pourrait faire une pétition, c'est le portage de GTA V.
Ouais, sauf que là, j'espère que le portage, parce qu'on... Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, mais on est un peu là pour vous informer, n'est-ce pas, Rockstar a laissé entendre qu'ils envisageaient une version PC Wii U de GTA V. Mm-hmm. Donc moi, je dis oui, pourquoi pas. Mais si c'est pour faire un portage aussi pourri que GTA 4, ils peuvent se le garder. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Parce que le portage PC de GTA 4, voilà.
Était sous-optimisé, voilà.
A finalement été très très développé par les modeurs, quoi.
Voilà.
Et alors c'est très marrant par rapport au portage de la Wii U, c'est Nintendo qui se met en conversation directe avec Rockstar et qui dit nous on aimerait vraiment que GTA V arrive, que les jeux aussi bons que ceux de Rockstar arrivent un jour sur Wii U. Ça fait tellement lèche-cul, c'est tellement c'est très très drôle.
Ouais, ils sont un peu obligés de leur faire du pied hein, quand même.
Surtout avec le lancement de la Wii U en ce moment
un peu chaotique
aux États-Unis. Ouais.
Ouais, elle est en train de se faire déglinguer dans la presse par rapport aux problèmes et tout ça. Enfin, pour l'instant, on n'en dit rien. Mais en tout cas, Nintendo, ils font un petit peu, on va dire, politique inverse de ce qu'ils faisaient avant, parce que les jeux avant un petit peu trop gore, un petit peu trop mature, ça a changé un petit peu, on va dire, avec il y a quelques temps avec la Wii et Mad World et ça, des jeux qui un peu à polémique. Parce que par exemple, je me rappelle, à une époque, il y avait eu le Hitman qui était sorti sur la GameCube. Mm-hmm. Qui a fait vraiment une polémique de malade. Ils ont dit plus jamais aucun Hitman sur une console de Nintendo à l'époque, parce que tu vois, c'était un jeu pour eux, c'était une console de gamins. Enfin, il l'a présenté comme un jouet, donc c'était pour les gamins. Ils voulaient plus de Hitman parce que c'était un mec chauve qui assassine des gens. C'est pas bon pour leur image, quoi. Et maintenant
c'est vrai que tuer des zombies c'est beaucoup mieux. Resident Evil 4.
Le jeu qui fait le plus de polémiques à chaque sortie, même dans les presses, je vois des Canal+, tout ça, le Grand Journal et tout ça, des gens qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, ils parlaient de GTA 4, quoi, pour les tout le monde en parle, tu vois, tout le monde veut son.
Le Grand Journal, c'est pas cette GTA, émission de merde où ils ont dit que la musique dans les jeux vidéo,
Ah ouais, ils ont dit ça.
Ouais.
Et ben.
Ils ont dit quoi?
La musique dans les jeux vidéo, sous-entendu, c'est de la merde, quoi. Enfin, tu vois, les gens incultes qui n'ont aucune culture. Et surtout qu'en plus, souvent les BO de jeux vidéo, c'est des BO d'artistes très connus. En plus, des fois, typiquement GTA.
C'est clair.
Donc voilà.
Bon, ça commence un peu à changer sur Canal+, mais c'est vrai que le Grand Journal parfois est très très populaire sur certaines choses et tape un petit peu sur le, notamment GTA 4. Moi, je me rappelle de peut-être cette émission là. Ouais. Enfin, bon, en tout cas, je pense que la Wii U aimerait bien avoir GTA. Parce que très franchement, moi je pense que il faudrait en avoir rien à faire de l'opinion de la presse non spécialisée. Ce qu'il faut, c'est des ventes chez les joueurs, quoi. C'est tout. Ça... Donc s'il y a GTA V sur Wii U, voilà, ça serait tout bénef à mon avis.
Peut-être qu'ils veulent changer un petit peu leur image aussi, hein, comme l'a dit ATH. Ouais, comparé à la Wii et même au GameCube d'avant, ils veulent voilà, ils veulent prendre en compte plus les core gamers entre guillemets, je pense.
Bah c'est ce qu'ils doivent faire absolument, ouais, s'ils veulent avoir les portages Xbox 360 et PS3, parce que les portages Xbox 360 et PS3 que les gens veulent voir, c'est des jeux gamers.
Évidemment,
c'est des jeux qui sont voilà, qui sont pas forcément le public très casual de la Wii, quoi.
Ouais.
Donc voilà, il faut absolument que la Wii U change son image.
Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien, ouais, qu'il y a déjà les Darksiders, les sur
Batman.
Sur Wii U, il y a les Batman, les Assassin's Creed,
Mass Effect, tous ces trucs-là, ouais, c'est sûr que. Bon.
Bon, messieurs, je vous propose d'enchaîner quand même, parce qu'on passe un petit peu de temps sur les news, là.
C'est vrai.
Vite fait, juste les 135 heures d'affilée. Alors, c'est sur quel jeu, messieurs?
À ton avis?
Bah, allez, Call of Duty, évidemment.
Ouais, Black Ops 2, évidemment.
Non, bah, en même temps, ça peut être pas, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont prêts à faire 8 heures de queue à la Paris Games Week pour y jouer.
Pour jouer 10 minutes.
Ouais. Bah, il y a un mec qui joue 135 heures d'affilée. C'est un Australien qui s'appelle Okan Kaya. GG, mec. On se retrouve l'année prochaine.
Mais t'aurais pu... En tout cas, s'il aurait voulu battre encore, il aurait pu jouer un jeu mieux que ça, quand même.
Ah, je sais pas. Il a certainement joué au multijoueur. Le mec, il est prestige, déjà.
Sinon, s'il aurait joué qu'au solo, il l'aurait fait 137 fois.
T'imagines le truc.
Bon, le solo 135 heures. Je propose qu'on arrête de casser du sucre sur Call of Duty. On passe à la suite. Et là, on a une nouvelle bien plus grave. C'est, la mort de la Wii. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que Nintendo a confirmé officiellement que plus aucun jeu n'était en développement sur Wii.
C'est le directeur de Nintendo du marketing produit de Nintendo of America qui s'appelle Bill Trinan qui dit tout simplement sur une question de la part de GameSpot qui demande en fait s'il y aura des jeux en développement sur Wii en ce moment et un jour, il dit non, pas en ce moment. Donc ça veut dire plus jamais en gros, enfin selon moi. Hein. Donc moi j'interprète ça comme la Wii est bien morte, mais bon ça fait un an et demi hein, qu'elle l'est déjà donc.
Ça a le mérite d'être clair, ouais.
Donc voilà, une minute de silence peut-être pour la Wii.
Bref.
Je pensais qu'elle était morte à sa sortie, en fait, moi.
Oh, la mauvaise langue.
Non, c'est faux, il y a eu de très bons jeux.
Il y a eu d'excellents jeux.
Oui, il y a eu d'excellents jeux, mais... Enfin, je sais pas, quand tu sors une console, quand il y a d'autres consoles HD qui sortent et que tu sors une console qui a la même capacité qu'une GameCube, ça fait un peu...
Ouais,
parce
mais
que
bon,
ça fait un peu mal, quoi.
Bon, on va pas revenir sur ce débat, s'il vous plaît, ouais. On passe à la suite. Une faille de sécurité trouvée par hasard sur Wii U ATH.
C'est donc un jeune Américain qui cherchait à... paramétrer ses amis sur la Nintendo. Donc il essaye d'aller dans les paramètres pour faire des trucs. Par hasard, paf, il tombe sur le contrôle d'administration de Nintendo carrément, sans lui demander aucun mot de passe, ni aucun justificatif. Et le mec, il pouvait changer les mots de passe de qui il voulait, de changer les pseudos, de faire ce qu'il voulait. Il a même eu le droit, j'ai envie de dire en avant-première, apparemment un nouveau Metal Gear Solid développé sur la Wii U, un nouveau Yoshi sur la Wii U aussi, qui est des jeux donc qui n'ont pas été annoncés par Nintendo ni par Konami. Il a posté l'image service administration de Nintendo sur le forum de NeoGAF. Ça fait un grand bruit. Nintendo a vu ça. Ils ont commencé à paniquer. Apparemment, ils ont réglé le problème de faille de sécurité. Là, je me demande avec la Wii U si les sécurités sont vraiment aux normes.
Moi, je comprends pas comment il a pu trouver des informations dans ce genre-là. Concernant des jeux et où est-ce qu'il les a trouvés, quoi. C'est assez étonnant.
C'est réservé, de ce que j'ai pu comprendre, aux gens du service d'administration de Nintendo.
Ah, c'est pas sérieux.
Et lui, donc, il est tombé dessus par hasard, quoi. Donc, c'est en voulant paramétrer juste ses codes d'amis, c'est un petit peu flippant, quoi.
Ça fait un peu pitié, très, très franchement, ça fait un peu pitié. Ouais.
Donc vous avez la confirmation, Nintendo c'est toujours le tiers-monde du mode en ligne.
D'ailleurs, si je peux ajouter juste un petit truc, petite quenelle de plus pour Nintendo, bon j'ai rien contre Nintendo, mais c'est vrai que le lancement de la Wii U était un petit peu délicate. Je sais pas si vous avez entendu parler de la législation aux États-Unis qui protège les mineurs de moins de 15 ans, de moins de 13 ans pardon, sur Internet. Voilà, et ben en fait, pour créer un compte Wii U, si l'utilisateur se déclare de moins de 13 ans, il est obligé en fait d'entrer un numéro de carte bleue pour être sûr que ça se fasse sous le contrôle d'un adulte en fait. Et normalement, il y a juste l'enregistrement à faire, il n'y a pas de prélèvement. Sauf que Nintendo, en loose day, il prélève 50 cents.
Oh, c'est pas...
Et voilà, 50 cents, bon, c'est rien, c'est absolument rien. C'est prélevé qu'une fois à la création du compte. Mais c'est la manière, pour moi, qui m'a un petit peu... que je trouve pas bien.
50 cents par 50 cents, ça chiffre au bout d'un moment.
Oui, mais individuellement par console, c'est pas
Oui, bien sûr.
Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas mon numéro de carte bleue à Nintendo, hein. Faut qu'ils arrêtent, hein.
Ah ouais, non, ouais, y a pas moyen.
Tu pourrais très bien faire un système où c'est l'adulte qui met 13 ans, il met un mot de passe, et puis voilà. Ouais. Si tu veux mettre un numéro de carte bleue.
Et vous connaissez pas la... Parce que le bruit que ça a fait, voici la réponse de Nintendo. Nous avons été informés que certaines personnes ont pu accéder à un menu type sur Miiverse après la sortie de la Wii U aux USA. Veuillez noter qu'il s'agissait simplement d'un modèle de menu et qu'il n'est désormais plus accessible. Donc, moi, j'ai envie de dire, quand tu vois, il y a des, donc, un menu type, d'accord, mais tu vois qu'il y a des jeux comme Yoshi Island, Soul Hacker, ou Metal Gear Solid qui sont annoncés, ou même des trucs, par exemple, où tu peux effacer un compte, ou changer le mot de passe de quelqu'un, j'ai envie de dire, le menu type, il est pas, c'est pas vraiment un menu type.
Non, mais
type,
on est d'accord, c'est grave, que, ils sont, ah ouais.
C'était
pas un menu type.
C'était une interface à l'administrateur, en fait.
Ouais, c'est...
Bon, en tout cas, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sait que va y avoir des jeux très intéressants qui vont sortir. Alors, le Metal Gear, est-ce que c'est un Metal Gear connu ou est-ce que c'est une exclue?
Est-ce que c'est Metal Gear Rising? On sait pas. Hein.
Est-ce que Ground Zero sortira sur Wii U? Ça serait bien, tu vois, quand même.
Ouais, pourquoi pas.
Hein. Bon, écoute, hein, affaire à chiffre tout ça, en espérant que Nintendo fasse un peu plus attention la prochaine fois.
Ouais, quand même.
Bon, ensuite, un coup de gueule, cette fois. Sur Call of Duty Black Ops 2, où Activision se fout clairement de la gueule du monde. Alors, ATH, de ce que j'ai compris, en gros, il y avait une map exclusive qui était dispo pour certains utilisateurs, et en gros, ils l'ont retirée ensuite.
Voilà, c'est ça. Donc, si vous précommandez le jeu chez certaines enseignes, vous avez la map Nocturne 2025. Donc, la map Nocturne, c'était une map qui était dans le premier Black Ops. Ils ont dit donc on va la remanier donc pour ce nouveau Black Ops 2 et donc on va vous donner une nouvelle map, ça si vous précommandez le jeu. Sauf qu'elle est restée pendant un week-end spécial double XP et après ils l'ont retiré mais sans le dire aux gens. Et après sur les forums d'Activision se retrouvaient assaillis de joueurs, ils se sont demandé comment ça se faisait que la map était enlevée. Activision a tout simplement répondu que on avait le droit d'enlever ou de retirer la map comme bon nous semblait. Et mais suite à ça, ils ont décidé de la rajouter donc dans la playlist bonus pour la sortir lors des événements spéciaux. J'ai envie de dire, c'est un peu du foutage de gueule quand tu promets une map qui reste deux jours, quoi. Tu peux te la carrer au bien où tu penses, quoi, ta map. Et j'ai envie de dire aussi, quand je vois sur certains magazines Black Ops 2, le jeu de l'année, un jeu qui innove chaque année très très fort, j'ai envie de dire, et qui nous sert toujours la même sauce. Comment peut-on mettre une connerie pareille, le jeu de l'année?
Bah, en tout cas, au niveau des ventes, voilà. C'est le jeu de l'année, hein.
Ah oui, c'est sûr.
Au niveau des ventes, mais
Quoique, il paraît qu'Halo 4 marche pas mal, mais c'est un autre débat.
Halo 4, qui est d'ailleurs que sur Xbox 360, et donc, Call of Duty, qui mange à tout le râtelier, bien sûr.
Bah, il manque la DS, quand même.
Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dessus, bon, on est tous d'accord sur le fait que c'est scandaleux, enfin. Ouais. C'est toujours le problème maintenant, tu vois, avec les éditeurs qui contrôlent à fond le mode en ligne des jeux, tu vois. Ils ont, selon leur humeur, tu vois, s'ils ont envie de retirer une map, écoute, on l'enlève, hein, voilà. Enfin, moi, je trouve ça, c'est...
Non, mais c'est surtout que c'est un cadeau qu'on est censé te donner, justement parce que toi, tu fais aussi un cadeau à l'éditeur. Ouais. C'est parce que, il faut bien comprendre que la précommande, ça arrange tout le monde, hein. Ça arrange les éditeurs, ça arrange les fournisseurs, les distributeurs.
Ça arrange tout le monde sauf celui qui commande, en fait.
Voilà, mais bien sûr. Et donc, donner un petit cadeau comme ça en plus, ça permet aux gens de précommander. Mais alors, si justement ce petit bonus-là, on te l'enlève, enfin, je trouve que c'est un petit peu abusé, quand même.
Clairement.
Bon, bah, écoute, en espérant que, Activision ait une politique un peu moins dégueulasse vis-à-vis de ses joueurs, mais bon, bizarrement, tu vois, avec toute la monétisation qui a lieu en ce moment, etc., je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. Bon, allez, on termine cette semaine d'actualité avec Max Effect 4. On a eu de nouvelles informations sur la suite. Alors, d'après ce que j'ai compris, préquel ou pas?
En fait, c'est encore une fois Twitter, finalement. Tout revient à Twitter. C'est Casey Hudson qui est donc chez BioWare, bien évidemment, qui demande via Twitter aux fans, est-ce que vous préféreriez... Enfin, est-ce que vous êtes plus intéressé par un jeu qui se passerait après la trilogie ou avant la trilogie Mass Effect ? Et donc, du coup, ça fait un peu réfléchir les gens. Est-ce qu'ils veulent savoir ce qui se passe après la fin catastrophique de Mass Effect 3, ou avoir des renseignements sur ce qui s'est passé avant. Alors, il faut savoir que si vous connaissez un petit peu Mass Effect et que vous lisez ce qu'il y a dans Mass Effect, il y a pas mal d'informations sur ce qui s'est passé avant. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant à développer dans un jeu, ou dans une suite de jeux. Je sais pas. Enfin, moi, selon moi, laisser l'univers de Mass Effect comme ça en plan après l'avoir massacré, moi ça me fait un petit peu mal. J'aimerais bien qu'ils remettent les mains dans le cambouis et qu'ils fassent les choses bien, parce que c'est bien joli de faire un scénario sur 3 épisodes et ensuite le laisser tomber juste à la fin pour dire c'est pas grave, c'est fini. Il y aura pas de suite, c'est pas grave. Moi, je trouve ça un peu abusé intellectuellement parlant, donc je sais pas.
Bah après, moi, ce que je trouverais intéressant, tu vois, c'est par exemple un Mass Effect sans les humains, tu vois. À l'époque ouais. des... Comment ils s'appellent déjà, les protéins ou...
Oui.
Les protéins, c'est ça.
Les protéins, ouais.
Franchement, je pense que l'époque des protéins, tu vois, en préquel, ça serait vachement, vachement intéressant. Après, tout ce qui est justement les Turiens, etc., ça m'intéresse moins, tu vois. Je trouve ça beaucoup moins intéressant, personnellement.
Ouais.
Moi, je préférais vraiment que ce soit après la trilogie, parce que, comme a dit Mandrain, parce que quand tu vois la fin clairement de Mass Effect 3 sans spoiler, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vois une cinématique, tout ça, mais tu dis, ouais, j'ai fait tout ça, mais, c'est quoi vraiment la fin? Qu'est-ce qui se passe vraiment après, quoi? Tu sais pas trop. Et moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, même si c'est vrai que la trilogie, la préquelle pourrait être intéressant. Mais dans le problème des préquelles, c'est que j'ai peur ça fasse un peu le syndrome à la George Lucas et saga Star Wars. J'ai peur qu'il y a des incohérences, quoi. Ah oui. Après, que,
déjà qu'il y en a dans la trilogie elle-même, alors t'imagines s'il y a des trucs. Hein.
Voilà, donc, ça serait un foutu bordel.
En même temps, je veux dire, faire des suites, ça empêche pas d'avoir des incohérences. Hein.
Ah, ça c'est clair.
Ça change un problème.
C'est clair.
Faire des incohérences. Si tu fais des suites et normalement dans la suite, si tu fais des suites directes, t'as moins de problèmes de timeline. T'es dans le présent, tu vas en arrière, tu reviens.
Si les mecs ont une timeline claire où ils ont écrit tel événement se produit à tel moment, normalement, y a pas de problème. Après, s'il y a un souci, de toute façon, t'en fais pas, il y en aura un dans la suite, hein, parce que ça veut dire qu'ils ont pas réfléchi à leur truc. Et il y aura forcément un problème.
Rien n'empêche que ça soit vraiment, vraiment, vraiment après la trilogie. Hein. Ça peut très bien se passer 1000 ans après, hein, on ne sait pas. C'est pas obligé que ça soit une suite directe. Et il faut savoir, enfin, pourquoi ils demandent ça. C'est parce que ils voudraient vraiment ne pas faire un Shepard bis, en fait. Ils voudraient avoir un personnage qui soit vraiment différent. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se posent la question de où placer Mass Effect 4.
Mais j'ai envie de demander, c'est quoi un Shepard bis? Parce que fondamentalement, le commandant Shepard, il a pas de personnalité.
Ouais.
Le commandant Shepard, c'est nous, c'est le joueur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont faire comme dans, je sais pas moi, The Witcher, un héros avec une personnalité déjà préétablie? Moi, je sais pas. Moi, je trouverais ça intéressant. Tu vois, ça offrirait une autre expérience. Mais à ce moment-là, est-ce que ça plaira aux fans? J'en suis pas convaincu. Hein.
Shepard, c'est rien de plus qu'un avatar, ouais. Quoi. T'as le Shepard de base qui est sur les jaquettes, etc. Donc pour avoir le visuel d'un personnage, mais franchement, c'est moi je suis sûr que j'ai pas eu la même expérience que vous dans le jeu.
Bah, c'est
et chacun a eu son voilà. Je me retrouvais sur les forums, on disait ah, moi à ce moment-là j'ai fait ça, ah ouais toi t'as eu cet embranchement là, d'accord, ok. Moi j'ai eu ce choix scénaristique et toi aussi. C'est vraiment ça l'univers au début qui nous était promis. C'est pour ça qu'on a été un petit peu trop déçus par la fin, mais on s'imaginait vraiment un apothéose grandiose avec tous les choix qu'on avait à faire durant la saga.
Voilà. Donc voilà, on attend un peu avec une certaine expectation, n'est-ce pas? On verra bien, écoute, ce que ça va donner, wait and see, comme on dit. Allez, c'est terminé pour les news, on va passer vite fait sur les dates. Donc on commence avec Shadowrun Returns en mai ou juin.
C'est un petit peu comme il y a 2 semaines, c'est mars ou avril, on sait pas, mais ça sera l'un des deux. donc voilà, ça c'est bon, c'est un petit peu plus cadré quand même comme date, mais ouais, pas grand chose d'autre malheureusement.
Ça va être l'un des premiers pour gros projets Kickstarter qui va sortir là cette année.
Oui.
Donc on les attend tournant.
Ouais, c'est clair.
Ensuite, Ratchet & Clank retardé en janvier.
Oui, c'est le Ratchet & Clank Vita. Donc Mikado sera malheureux d'entendre qu'il a été retardé à janvier prochain. Il devait sortir fin novembre, là, le 27, et donc il sortira en janvier finalement. Il s'appelle Ratchet & Clank Full Frontal Assault.
Ça va, tu te sens pas trop seul, Mikado?
Il sera cross-buy, je crois, donc je le prendrai sur PS3 et
Et
gratuitement sur Vita en janvier, je pense. Ouais.
Bonne idée.
On a quelqu'un à la rédaction qui a une Vita, je le savais même pas. Je te préviens, tu vas te faire souvent tailler, Mikado, mais
c'est l'habitude, t'inquiète pas. Ouais.
Bon, ensuite, Strike Suite Zero, le 24 janvier, et ça, ça va être... Donc vous avez compris, en janvier, vous aurez un test de Strike Suite Zero, puisque j'ai investi sur le Kickstarter.
Et un test de Ratchet & Clank, a priori.
Ouais. Je pense qu'il aura que ça à faire.
J'ai plein de trucs à faire, si tu savais. Ouais. Tu dois, faites un tour sur le forum, sur le topic des futurs tests.
On a vu ça.
Bon, allez, c'est terminé. On va passer au test. Un test, ce qui va être un peu l'instant défloration de Mikado, n'est-ce pas?
Parce que, alors après l'introduction, la défloration, c'est ça? D'accord.
Parce que, très chers auditeurs, vous ne connaissez peut-être pas Mikado si vous ne passez pas sur le site pour lire nos news, n'est-ce pas? Mais on l'appelle un peu le newser fou à la rédaction. Ça va être son premier test au podcast. Et donc, ce premier test, Mikado, c'est...
C'est Assassin's Creed 3 Libération.
D'accord. Donc, on est dans la continuité par rapport à la semaine dernière.
My father hoped I would live an easy life.
I dare say you could stop a man's heart.
But the blood of injustice around me could not be ignored.
Who did this? Your master?
You'll pay for this.
When I was a child, my mother was taken from me.
Mama? Mama!
My city overrun with Spanish soldiers. My people forced into slavery.
I told you to keep your place.
And so, I fight. I stand with those who stand with me.
Why would we need your help?
Four reasons, right there.
I lure my prey to the guise of a lady.
Will you allow me to dance?
I escape their notice to the veil of a slave. I may conceal my identity. One thing is certain. Commit injustice in this world, and I'll send you to the next. I am Aveline de Grandpré. I am an assassin, and I fight for liberation.
Déjà, Mikado, j'ai cru comprendre que cet Assassin's Creed 3 se déroulait, grosso modo, un peu avant le troisième opus sur console. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'ils ont développé un peu les liens scénaristiques entre les deux épisodes?
Entre Connor et Aveline, tu veux dire?
Oui.
Ou non. Clairement, non. Alors, je vais pas spoiler beaucoup en disant qu'ils vont se croiser hein, à certains moments de l'aventure, mais il y a vraiment pas... Enfin, il y a pas vraiment de grand lien en fait. Ça se passe à la même époque, hein, là, pendant la guerre d'indépendance en Amérique du Nord, et pendant la période donc des colonies. Hein, ça se passe en Louisiane, donc à la Nouvelle-Orléans. Mmh. Et voilà, on peut le considérer vraiment comme un spin-off, je pense. Il est développé justement par un studio, enfin par Ubisoft Sofia. C'est même pas par la maison mère hein, de Montréal. Mmh. C'est le studio bulgare. Donc ça se passe à la même époque, mais pas vraiment de lien à part les deux personnages Connor et Aveline qui vont se croiser. Bon, j'en dis pas plus pour pas spoiler à un certain moment de l'aventure.
Mais si il développe pas justement cette relation de deux personnages. Est-ce qu'au moins au niveau du scénar, cet épisode apporte quelque chose ou pas du tout?
Pas du tout, non plus. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'intéresser au scénario, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'ellipses et beaucoup trop de choses passées sous silence ou trop rapidement traitées, hein. À mon goût, après, si ça se trouve, d'autres personnes vont y adhérer complètement. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de la première séquence, tu vois, on va voir Aveline, petite fille, donc accompagnée de sa mère, et la séquence d'après, on va la voir adulte, déjà assassin, on ne saura pas pourquoi, ni comment, et enfin, ils auraient pu ajouter des séquences intermédiaires, ou même faire des séquences flashback pour développer, ça aurait rendu l'aventure d'autant plus intéressante, d'après moi.
Donc, qu'on soit clair avec nos auditeurs, cet Assassin's Creed-là, ce n'est clairement pas pour le scénar qu'il faut y jouer.
Pas du tout. C'est un spin-off. Bah, ça reprend le vieux conflit Assassin Templier. Hein, ça, y a aucun problème là-dessus. Il y a juste un petit détail intéressant, enfin moi qui m'a beaucoup plu, c'est que au tout début, au lancement du jeu, en fait, on voit que c'est, on nous annonce que c'est un jeu créé par Abstergo. Voilà, donc Abstergo, en fait, dans l'histoire des Assassin's Creed, c'est la boîte qui développe, qui a créé l'Animus et qui permet de revivre l'histoire, la vie des assassins.
Ce qu'on appelle les mémoires génétiques.
Voilà.
Les méchants, en fait, font un jeu vidéo et vous allez y jouer pour nous développer des informations.
Mais après, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que c'est la vraie histoire? Est-ce qu'ils nous cachent pas d'autres choses? Donc, scénaristiquement, ça aurait été bien de pouvoir développer ça. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça non plus. Alors peut-être dans des hypothétiques suites, hein, ça c'est toujours pareil. Donc scénaristiquement, moi ça m'a vraiment pas emballé.
Donc aucun lien avec l'histoire de Desmond.
Non. Mais d'ailleurs, on n'a pas du tout, on ne sait pas du tout.
Il y a pas de méta-histoire, voilà. Rien du tout, pas de
on
moment.
On ne sait pas qui est dans l'Animus, en fait. On va vivre l'aventure d'Aveline de Grandpré. Mais on ne sait pas du tout qui joue à ce divertissement d'Abstergo.
D'accord.
Bah c'est toi qui joues, en fait.
C'est toi le Templier,
voilà, exactement.
En fait, Mikado.
Bon, à défaut d'avoir une histoire convaincante, est-ce que au moins au niveau du gameplay, on a un vrai Assassin's Creed? Parce que je rappelle que bon, il y a eu des épisodes précédemment sur console portable ont été pas très glorieux, quoi, on va dire. Oui. Est-ce qu'au moins à ce niveau-là, on a enfin un Assassin's Creed potable sur console portable?
Alors là, il y a aucun problème. Il y a tous les éléments du gameplay des Assassin's Creed sur console de salon. Hein. Donc il y a le parcours, hein, la course libre, elle est super fluide, Aveline bouge super bien, ça change un petit peu d'avoir une fille comme assassin d'ailleurs. Et voilà, même pour les combats, on a toujours la possibilité d'avoir les deux armes, une arme à chaque main, et une arme de poing, on a les mousquets. Et toujours le système de contre, sauf que là, pour les combats, bon, ça saccade un petit peu, on a quelques petites chutes de framerate, donc c'est, et les contres qui sont un petit peu durs à sortir, mais ça c'est des problèmes techniques, heureusement qu'on peut éviter, assez souvent les combats, donc c'est pas vraiment, vraiment dommageable, même si pour les bourrins, ça risque de les embêter un peu.
Tu as joué à Assassin's Creed 3, toi?
Non, pas encore.
Non,
pas encore.
Donc tu peux pas encore dire les différences entre les deux. Mais j'ai cru comprendre que sur cet épisode, il y avait quelques soucis de ralentissement sur Vita. Tu me confirmes?
Ouais, je confirme complètement. Il y a plein de bugs, plein de ralentissements, donc notamment pendant les combats. Alors j'ai été, il y a deux ou trois fois où j'ai été éjecté, hein, complètement du jeu. Erreur technique, sortez monsieur.
Comme sur Assassin's Creed 3 avec ATH,
t'as eu
des gros bugs.
Exactement, quoi. Voilà. Je balance un garde du toit, bon, il va rester en suspension dans l'air. Bon, on ne sait pas comment ça se passe. Ou alors je vais sortir du bayou en nageant et je vais nager encore 5-6 mètres sur la terre ferme. Bon, c'est plein de bugs, oui, c'est vrai, c'est plein de ralentissements. Techniquement, c'est pas très bien fini, mais d'ailleurs je pense qu'ils sont dépêchés un petit peu pour le sortir en même temps qu'Assassin's Creed 3, hein, sur console. Ça c'est qu'ils auraient peut-être pu prendre un peu plus de temps pour le finir, je pense.
On sait s'il y a des patchs qui sont prévus ou parce que là c'est.
Oui, il y a un patch qui va arriver.
Ah oui, bah je crois qu'il y a un patch pour les sauvegardes qui sautent. Pour les bugs, j'avoue que je ne sais pas. Bon, j'ai pas été touché hein, par les sauvegardes. Ma sauvegarde est toujours là. Je touche du bois.
Heureusement.
Ouais. Mais à ma connaissance, je ne crois pas.
Bah, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus centrés sur Assassin's Creed 3 au niveau des bugs que Assassin's Creed Libération là.
Ah oui oui, clairement.
Ouais. En même temps, il est beaucoup plus vendu que le Libération.
Ah oui. Ouais.
On imagine en tout cas.
Il y a pas photo. Après pour le reste du gameplay, je voulais juste dire que ça s'enchaînait bien, on a des missions assez variées, c'est des missions d'assassinat, de filature, de vraie infiltration hein, j'ai envie de dire, parce que on aura des séquences où si on se fait repérer c'est l'échec, faut la recommencer, donc clairement c'est de la bonne infiltration.
Quand tu dis de vraie infiltration, c'est est-ce que c'est je sais pas comme les tu as joué aux anciens épisodes de Assassin's Creed sur console?
Ouais.
L'infiltration de ce même type là, ou bien elle est un peu plus dure, c'est quand ça se rapproche d'un Metal Gear tout ça, parce que moi dans Assassin's Creed 3 l'infiltration c'est pas trop ça quoi.
Non, c'est du même type, mais je dis vraie infiltration simplement parce que si tu te fais repérer à certaines missions, c'est retry quoi.
D'accord.
Voilà, tu recommences. Après, rien ne t'empêche, tu vas courir vers un garde, il va te repérer, mais une demi-seconde plus tard, tu vas le planter, l'alarme sera pas donnée quoi.
D'accord.
Tu vois. Et là, la seule innovation de gameplay que j'ai envie de donner, c'est la possibilité de se déguiser en fait. Elle a trois costumes, Aveline, donc le costume de dame, le costume d'esclave et le costume d'assassin, qui vont la faire passer plus ou moins inaperçue selon les situations en fait. Et on aura aussi différentes manières d'aborder les situations. On va nous demander par exemple d'infiltrer une réception du gouverneur par exemple. On pourra y aller et entrer par la grande porte en tant que dame. Ou alors on pourra passer par les toits, escalader, déguisé en assassin. Mais là, on passera beaucoup moins inaperçu.
Ils ont une grosse inspiration d'Hitman là.
Ouais. Mais pareil, ça reste pas assez fouillé, assez développé pour moi, je pense. Mmh. Dans le sens où
ouais, c'est juste un embryon quoi.
Voilà. Dans le sens où ces différentes tenues, en fait, tu seras obligé de les porter. À certains moments, t'auras pas le choix. À certains moments, t'auras le choix. À d'autres, non. Tu seras obligé de porter le costume de dame, sachant que par exemple, le costume de dame, Aveline, elle est très lourde, donc elle peut pas courir, elle peut pas sauter, elle est extrêmement lente. Et quand il faut aller d'un point A à un point B pour ta mission en dame, c'est très chiant. Quelle extrême. Tu mets 10 minutes à traverser la Nouvelle-Orléans. Oui, bah tu vois du paysage, mais c'est pas très très intéressant quoi.
Ok. La ville de la Nouvelle-Orléans, est-ce qu'elle est grande? Les missions, elles sont hachées en différents morceaux de la Nouvelle-Orléans, ou tu peux vraiment explorer toute la ville?
Non, tu peux explorer toute la ville dès le début.
C'est bien ça.
Ouais. Et elle est grande, ouais. Elle est grande, elle est pleine de vie. Ça, c'est vraiment très sympa. Mais les missions, après, elles sont pas... Comment te dire ? Elles sont très, très différentes, en fait. Il y en a une qui va durer 5 minutes et l'autre d'après un quart d'heure, quoi. C'est pas... Voilà, elles ont pas toutes la même durée. Mais après, il y a beaucoup de différences entre les différentes régions. On a la Nouvelle-Orléans qui est vraiment immense. Il y a le Bayou aussi qui est très très grand, et on a Chichen Itza au Mexique, on va aller aussi, qui est plus petite. Mais ça c'est à dessein, mais voilà quoi. Les zones de jeu sont vraiment très, il y a de quoi explorer quoi. C'est vraiment sympa.
Il y a des quêtes secondaires.
Il y a des quêtes secondaires, mais c'est du même acabit, tu sais, que les plumes à collecter, par exemple. Par exemple, on saura que quand Aveline était gamine, sa mère a disparu, donc on aura les pages du journal de sa mère à chercher pour en savoir plus. On aura des œufs de crocodile, par exemple, à trouver dans le bayou. Voilà, mais c'est plein de petites choses comme ça qui ne donnent pas forcément lieu à des bonus
okay.
très intéressants, mais qui peuvent développer un petit peu plus l'histoire si on s'y intéresse.
Et historiquement parlant, ça vaut le coup, enfin parce que bon, les Assassin's Creed c'est aussi ça. Est-ce que t'as appris des choses sur la Nouvelle-Orléans à cette époque-là ou c'est très en surface
Ah ouais, ouais non.
Pas vraiment de choses
intéressantes. Ça reste intéressant en fait. Bah oui, c'est vrai que les Assassin's Creed, ils ont l'habitude de prendre pour background un background historique assez lourd, assez important. Hein. Mmh. Donc là, ça se passe au temps des colonies, en fait, justement quand la France laisse la Louisiane sous autorité espagnole, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant et je suis allé. Et j'avoue que ça m'a donné envie d'aller me documenter un petit peu plus sur Internet. Voilà,
ouais,
sur la guerre d'indépendance et les colonies nord-américaines.
Okay. Ouais.
Il y a vraiment de quoi faire en fait, mais ça reste relativement rapide et accessoire. Voilà, les œufs de crocodile à les collecter, voilà, c'est pour ta collection, tu vas torcher le jeu à 100%, mais ça va rien te donner de particulier.
D'accord. Et donc du coup, au niveau de la durée de vie, ça donne quoi?
Moi, je l'ai relativement fait en ligne droite, j'ai mis 10 heures. Même un
D'accord.
peu moins. Voilà. Si vraiment, je pense que je me mets à chercher tous les petits à côté, j'en aurai pour 4 à 5 heures de plus, je pense.
Mais ça fait un petit peu artificiel, quoi.
Dans le sens où ça t'apporte pas grand chose, hein, scénaristiquement, c'est vrai que c'est pas tip top. Tu peux t'en passer amplement.
Et, est-ce que t'as un petit mot à dire sur le multi ou pas?
C'est de la merde.
Parce que j'ai vu que tu l'avais mis dans le, tu l'avais pas très bien apprécié dans ton test, donc.
Ouais, c'est une espèce de jeu de gestion en fait où on aura une carte du monde, donc une vraie carte du monde, avec des bases en fait, dans des villes réelles. Hein. Donc moi je me suis basé à Lyon, évidemment. Et en fait tu choisis ton camp, donc assassin ou templier. Et tu vas essayer de défendre ta base et d'en conquérir d'autres. Et au départ, tu commences avec deux ou trois personnages, je ne sais plus. Et donc, en gagnant des niveaux, en fait, tu vas agrandir ton équipe. Tu vas avoir des personnages supplémentaires. Et leurs points d'attaque et leurs points de défense, donc pour défendre ta base à toi, vont augmenter. C'est pas vraiment intéressant, hein, en fait, dans le sens où c'est, tu vas dire à tes potes d'attaquer telle base et voilà, ça va se faire, il y aura, c'est, enfin je sais pas quoi vous dire, ne faites pas ce multi.
D'accord.
Le seul petit à côté que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le commerce en fait. À un moment, Avin reprend les commerces de son paternel et on aura pareil en fait une carte des côtes américaines avec les ports, les différents ports, et c'est pour se faire du blé, hein, tout simplement. Les différents ports en fait ils vont se débloquer au fil de l'aventure, et donc il faudra qu'on pourra acheter des bateaux, des navires, ensuite acheter des marchandises dans un port et les revendre plus cher dans un autre port. Donc ça, c'est assez sympa, c'est pour se faire des sous assez rapidement, et ça m'a vraiment passionné, dans le sens où ça peut monter très très vite. Entre deux ports, par contre, le trajet n'est pas forcément sauf. On a des tempêtes qui peuvent détruire donc le bateau et la cargaison. Il y a des pirates qui peuvent voler complètement ou en partie la cargaison. C'est pour ça que les navires, en fait, ont des points de dégâts et une vitesse plus ou moins élevée. Donc voilà, là c'est un petit aspect gestion commerciale pour se faire de la thune qui est assez que j'ai beaucoup aimé et qui m'a pris beaucoup de temps.
Donc au final, bon, on a compris que cet Assassin's Creed avait des défauts, notamment au niveau des bugs, etc. Ouais. Mais qu'il avait un multiple extraordinaire, alors qu'en général c'est quand même une des premières qualités d'un Assassin's Creed. Ouais. Est-ce que tu le recommandes quand même, ce jeu?
Oui, je le recommande, parce que moi, je l'ai pris pour le faire du fond de mon lit, hein. C'est vrai que c'est assez plaisant d'avoir un vrai, pour une fois, Assassin's Creed, tu le disais, sur portable. C'est très plaisant, même si, les bugs plombent un peu l'ambiance et qu'on peut se passer largement du multi. Ça reste un bon Assassin's Creed, au final.
Ok. Bon. C'est terminé pour le jeu vidéo cette semaine. On va passer au point culture. Et le point culture, eh bien, c'est Morin qui s'en charge cette semaine et on va parler de...
Argo.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
Go, shred everything.
Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages.
If we're going to go, then we need to go now.
What happened?
Six of the hostages went out a back exit.
Where are they? The Canadian ambassador's house.
We've got Revolutionary Guards going door to door.
These people die. They die badly.
White House?
Who wants the six of them out?
What we like for this are bicycles.
Deliver the six bikes, provide them with maps.
Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade.
It's gonna take a miracle to get them out.
Hey, man. What are we watching?
I got an idea.
They're a Canadian film crew for a science fiction movie.
I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew.
I need you to help me make a fake movie.
So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything?
Yeah.
You'll fit right in.
You need a script?
Argo. Science fantasy adventure.
Moonscape, Mars, desert.
They need an exotic location to shoot.
You need a producer.
If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit.
You don't have a better bad idea than this?
This is the best bad idea we have, sir. By far.
You have 72 hours to get them out.
They're getting a visitor.
Have you gotten people out this way before?
No.
They're asking us to trust you with our lives.
This is what I do, and I've never left anyone behind.
I know who they are, and they know they're hiding out.
It's over, Tony.
They stay here, they will be taken. Probably not alive.
We're responsible for these people. I'm responsible.
Alors Argo, c'est un film qui est sorti le 7 novembre 2012 en France et autre part, j'imagine aussi. C'est un film de Ben Affleck. Alors Ben Affleck, c'est pas forcément un nom que vous connaissez en bien au niveau de son jeu d'acteur, notamment dans Daredevil, voilà. Mais depuis qu'il est passé derrière la caméra et depuis qu'il joue dans ses propres films, ça donne quelque chose de très intéressant. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parlais, parce que c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film qui est donc adapté de faits réels. Et donc ça se concentre sur la période 1979-1980. En 1979, en novembre, il y a eu une prise d'otage à Téhéran, donc c'est en Iran pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le cadre de la révolution iranienne, et donc dans ce cadre-là, il y a un sentiment anti-américaniste qui se développe, et l'ambassade américaine est prise d'assaut, et donc il y a une centaine d'otages à cet endroit-là. Mais le film va se concentrer surtout sur six personnages qui se sont réfugiés dans l'ambassade du Canada. Ceux-là, en fait, il y a la CIA donc américaine qui va tenter de les exfiltrer, parce que très concrètement, l'ambassade du Canada a beau être très très gentil, c'est quand même jouer avec leur vie de réfugier des ressortissants américains chez eux, donc il faut absolument les sortir de là. Donc en 1980, il y a eu l'exfiltration de ces six ressortissants organisés par la CIA, et ce qui est très intéressant, c'est le comment ils les ont exfiltrés. Et en fait, donc il y a un expert de l'exfiltration qui est joué par Ben Affleck, qui monte un faux film pour faire passer ses ressortissants pour l'équipe du film et les sortir d'Iran. Et donc ça montre toute une espèce d'opération avec Hollywood pour faire croire à la production d'un film. Et pour tout ça, en fait, finalement, pour faire sortir ses ressortissants de la capitale iranienne. Donc ce sont des faits réels, c'est adapté d'un bouquin qu'a écrit l'expert en exfiltration. Donc c'est particulièrement intéressant, et on sait de sources sûres que c'est les choses qui sont mises dans le film se sont réellement passées, notamment au début du film. C'est assez choquant, il y a des choses qui se passent et qui sont en fait des images d'archives, qui sont en fait une retranscription d'images d'archives dans le film, et c'est particulièrement prenant. Avec des scènes de foule en rébellion, ça donne des frissons.
Et question, bon, on a compris que c'était un des faits réels, mais oui. En fait, c'est quoi comme type de film? Est-ce que c'est un film avec du suspense, de la tension, ou c'est vraiment un film calme, posé, qui prend son temps, qui parle de cette période-là, voilà.
Alors très clairement, c'est un thriller, donc un film à suspense. C'est pas un film d'action, hein. C'est un film à suspense. Avec beaucoup beaucoup de tension, et du coup, enfin le il y a énormément de suspense, même si on connaît comment, enfin si on connaît l'issue de cette histoire, ce qui est très fort en fait, c'est on est quand même pris par le suspense, même si on sait comment ça s'est terminé. Et ça c'est souvent très signe que c'est bien fait. Donc très franchement, c'est un film qui est bien fait de ce point de vue-là, parce qu'il est centré sur les personnages. Il vous fait découvrir toute la tension de cette prise d'otage, d'être réfugié à un endroit dont on ne peut pas sortir toute la journée. T'es obligé d'être caché toute la journée dans la cave pour pas qu'un Iranien puisse te voir et te faire sortir dans la rue pour te faire exécuter, parce que c'était très clairement un danger de mort, hein. Être américain à Téhéran à cette période-là, c'est être pendu à une grue de construction. Donc c'est pour vous rendre compte de la tension du film. Et au total, en fait, tu sens vraiment que l'opération peut capoter à tout moment, et donc c'est un film qui dure 2 heures et qui franchement est tellement tendu que tu t'aurais scotché à ton siège. Et en plus, au niveau du jeu d'acteur, on peut citer notamment Ben Affleck et Bryan Cranston. Je sais pas si vous connaissez, c'est celui qui est très connu maintenant pour son rôle principal dans Breaking Bad.
Il est extraordinaire, cet acteur.
Lui est extraordinaire. Et il joue en fait un des patrons de la CIA en fait, et qui gère donc l'expert en exfiltration qui est Ben Affleck. Et voilà, donc en fait ça fait vraiment le balancement, un effet de balancier entre ce qui se passe à la CIA, toute la tension de la diplomatie qui doit marcher sur des œufs entre les États-Unis et l'Iran, plus la situation des réfugiés et la situation de l'expert en exfiltration qui est en Iran et qui essaye désespérément de faire sortir ces six réfugiés de la capitale, alors que justement il est tellement facile de reconnaître un Américain à Téhéran. Et du coup ça donne un film qui est vraiment vraiment plein de tensions, et qui arrive aussi quand même à avoir des passages assez drôles, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et très franchement, moi c'est un beau moment que j'ai passé. C'est pas le genre de film qu'on va voir pour se divertir, mais c'est un film qui apprend des choses, et qui finalement à la fin du film t'en ressors grandi, parce que t'as eu une expérience de tension extrême, et en plus t'as appris des choses. Voilà, moi très franchement, c'est un film que je vous recommande, et je pense que vu ce qu'il y a à l'affiche en ce moment en France, c'est un des c'est un des meilleurs films qui est à l'affiche pour le moment. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose à aller voir au cinéma en ce moment, je pense que c'est un conseil.
Il y a pas Twilight au cinéma là.
Allez voir Argo. Oui, voilà, c'est exactement ce que je pensais. Voilà, bien sûr, il y a toujours Twilight un petit peu au-dessus de d'Argo, ça me paraît évident.
Mais il y a Bilbo qui arrive aussi là.
Ouais, bah alors ça sera un autre point culture le mois prochain.
OK. Bon bah rien de plus à ajouter.
Non, je pense que j'ai tout dit, j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience. C'est un film qui se déguste en lui-même.
Tu peux citer peut-être les autres films de Ben Affleck qui sont pas mal aussi.
Alors moi je les ai pas tous vus. Hein. Moi j'ai vu The Town, ouais, qui est un film de braquage très très bercé dans la culture
un hit
irlandaise.
Ils ont voulu faire un peu un hit moderne quoi.
Ouais, sauf que c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus socialement chargé. Et à mon sens, c'est très intéressant aussi.
Il est puissant, aussi. Ouais. Il
défend pas mal. Donc ça, c'est voilà, c'est intéressant à voir. Est-ce que toi, t'en as en tête?
Moi, je pense à Gone Baby Gone, où il fait jouer son petit frère, il me semble, hein, Casey Affleck.
Oui.
Ouais. Donc sur où ils enquêtent sur la disparition d'une petite fille, si je me souviens bien. qui est pas mal aussi, voilà. C'est un thriller également. Ouais.
Voilà, il n'a pas réalisé énormément de films, hein, Ben Affleck, pour le moment. 5 films, mais je pense que ces 3-là sont au-dessus du lot, très clairement. Donc vous pouvez aller voir ça les yeux fermés.
Eh bien, c'est terminé pour cette semaine, messieurs, dames. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!
Salut à tous!
Salut à tous!
Et en tout cas, pour quand tu vas introduire Mikado pour le test d'Assassin's Creed 3 Libération, tu pourras dire vous avez peut-être entendu une voix pendant le podcast, et ben nous vous la présentons maintenant, etc.
Voilà. Pour attraper le petit truc. Je tiens juste à signaler que personne ne m'introduit.
Bon, continuons ce podcast parce que.